Quoi qu'on en dise, la nature humaine n'a pas beaucoup changé depuis 2000 ans. Le cœur de l'homme est malade, il est toujours aussi malade, moins spirituellement. J'ai un de mes filleuls qui est médecin dans un service de réanimation et qui me raconte régulièrement les réactions des familles. Ce sont toujours des cas critiques. Et les réactions de colère et d'incompréhension des proches qui ne disent pas « si vous aviez été là », mais qui disent « si vous aviez fait ce qu'il fallait, vous ne serez pas mort ». Quant à l'autre reproche qui est fait à Jésus, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ce qui ne pouvait pas empêcher Lazare de mourir, ça m'a fait penser à ce qu'une... L'une de vous, une fidèle, m'a raconté, elle s'occupe de sa mère en fin de vie. Et ses frères la laissent tout faire. Mais elle garde, comme une blessure ouverte, toujours en mémoire, ce qui s'est passé il y a 3 ans pour leur père. C'est elle aussi qui s'en était occupée. Et ensuite, il lui avait dit, si tu ne l'avais pas mis dans cet hôpital, il ne serait pas mort. Vous savez, beaucoup d'entre vous connaissent cette situation, avec des proches qui ne font rien. Mais quoi que vous fassiez, vous avez tort. Arrêtons-nous sur cette phrase que prononcent Marthe et Marie, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». Ce n'est pas « si tu étais arrivé plus tôt » ou « dès qu'on t'a prévenu ». Ce n'est pas son retard qui est en cause. Le sujet, c'est la certitude qu'elles expriment qu'en présence de Jésus, avec lui, rien ne pouvait vous arriver. D'ailleurs, il suffit de lire l'Évangile. Vous ne tombiez pas malade en sa présence. Et quand bien même vous auriez été malade, il vous guérissait. Et quand on parcourt cela, ce qu'ont vécu les disciples et ceux qui le suivaient, en 3 ans, aucun malade, aucun accident, aucun raté, 0 perte. Et même jusqu'à la passion, jusqu'au moment même de son arrestation, quand il y a un des disciples qui frappe le serviteur du grand prêtre qui coupe l'oreille, Jésus le guérit. N'est-ce pas la protection que nous attendons tous de Dieu, consciemment ou pas? Ce que nous exigeons de lui? N'est-ce pas en partie la démarche des parents qui sont à milieu de l'Église, qui le disent ailleurs, qui ne prient jamais, pour qui Dieu n'existe pas, mais qui font baptiser leurs enfants. Une protection divine. N'est-ce pas la démarche de beaucoup de fiancés dont on dit beaucoup trop vite qu'ils se marient pour la galerie, alors qu'ils veulent protéger leur amour. Une protection divine. N'est-ce pas ce qui motive aussi parfois le passage à l'église pour des obsèques, avec des familles qui demandent une petite bénédiction. On comprend bien, pas trop longtemps, hein, faut pas que ça dure trop longtemps. Non, pas de messe. On peut pas les forcer. Et pourtant, je leur dis, c'est la messe qui sauve. C'est la foi qui sauve et c'est donc la messe, le sacrifice du Christ. La plongée dans sa mort et sa résurrection, ce que nous célébrons à chaque messe. C'est par lui, avec lui, en lui, que nous pourrons nous retrouver dans l'éternité, avec ceux qui nous manquent, ceux dont on a été séparés, ceux qu'on pleure. Cela dit, pour être quand même honnête, et avoir vu un certain nombre de célébrations sans cœur et sans âme, et pour en avoir certainement fait moi aussi, en me disant, on n'est pas forcé de pleurer comme Jésus, mais enfin quand même, un minimum de chaleur et d'humanité. Je comprends que certains préfèrent parfois le plus bref possible. Ça ne veut pas dire, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il vaut mieux pas de messe qu'un truc bâclé. Même dans la pire des situations, le Christ est présent. C'est nous qui ne le sommes pas. L'absence de Dieu, c'est une invention des hommes. Ce à quoi nous devons nous convertir, c'est à sa présence. C'est l'appel du carême, convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est le début du ministère public de Jésus, sa première parole, convertissez-vous. Mais on va dire, se convertir à quoi? Se convertir à quoi? Il s'adressait à des croyants. dont nombre d'entre eux croyaient en la résurrection. Ils croyaient en Dieu. Il fallait qu'ils se convertissent à quoi ? Ce n'est pas uniquement une conversion morale. Eh bien, voyez comment Marthe, puis Marie, sur le conseil de Marthe, et c'est beau d'ailleurs, il faut s'arrêter là-dessus, quand elle lui dit tout bas, « Le maître est là, il t'appelle. » Voyez comment les deux sœurs, l'une après l'autre, sortent à la rencontre du Seigneur. Or, l'usage, vous le savez très bien, voulait que la famille endeuillée reste chez elle. C'est toujours l'usage. On va rendre visite. Le temps du deuil, c'est un temps qui est fermé, reclus, où on ne sort pas pendant au moins des mois, voire au moins un an. Ce n'est pas un temps perdu. Et on ne sortait que pour aller au cimetière. D'ailleurs, c'est ce que l'évangéliste mentionne. Les Juifs qui, la voyant se lever, pensaient qu'elle allait au tombeau. Elles sortent pour aller à Jésus. Comme certains d'entre vous viennent ici dans cette église, parce que c'est là qu'a eu lieu la messe d'adieu de la personne qui leur manque tant. Et que ce soit dans cette église ou ailleurs, dimanche après dimanche, notre cœur se laisse réconforter, relever, fortifier, enseigner. Par la liturgie, par la célébration de la mort et la résurrection du Christ, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Notre foi en la résurrection n'est pas fondée sur le retour à la vie de Lazare, mais sur ce que ce retour signifie. Du lien de Jésus à son Père, de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. « Je sais, dit-il, je savais bien que tu m'exauces toujours, tu es toujours avec moi. » Alors, quelle est dans cette page d'Évangile la parole que vous allez prendre aujourd'hui, demain, cette semaine, dans votre prière ? Est-ce que c'est cette promesse qui résume en quelque sorte notre espérance, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ou est-ce que c'est la parole du début, cette maladie ne conduit pas à la mort ? Elle ne conduit pas à la mort si nous la vivons avec le Christ, pour la gloire de Dieu, comme toute notre vie, avec le Christ, pour la gloire de Dieu. C'est très exactement ce que nous vivons en tant que carême, mais toute notre vie. Ce à quoi nous nous préparons, ce pourquoi nous devons nous convertir, pour voir la gloire de Dieu. C'est quand même une question, qu'est-ce que nous préférons ? Qu'il nous empêche de mourir ou qu'il nous ressuscite ? Qu'il nous empêche de pécher ou qu'il nous pardonne ? Qu'il décide pour nous à notre place ou qu'il attende notre réponse. Et vous pourrez, je vous invite, rapprocher cette scène d'une autre scène de l'Évangile qu'on trouve dans l'Évangile de Saint-Marc, juste après la transfiguration, quand Jésus redescend la montagne, il trouve un attroupement avec les autres disciples, et puis il y a un homme dont le fils, on l'appelle généralement, qui est épileptique, en réalité il est possédé, et le père s'adresse à Jésus parce que son fils sans cesse frôle la mort. Et lui dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. Et Jésus déclare, pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Moi je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela ? Puissions-nous répondre, je crois Seigneur. Viens au secours de notre manque de foi.